Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h, soyez les bienvenus.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
On sait que c'est un menteur. 90 minutes de débat qui ont tourné au pugilat entre Donald Trump et Joe Biden. Que faut-il en retenir ? Nous serons en direct avec Xavier Yvon depuis Cleveland, dès le début de ce journal. Un tiers des foyers de contamination dans les écoles et les universités, toutes les facs sont concernées. L'enseignement à distance devient souvent la règle. À Marseille, on se veut rassurant sur la situation des hôpitaux. Certes, c'est tendu, mais tous les malades sont accueillis et très peu d'opérations reportées.
Que ceux qui critiquent continue à critiquer. Moi, je travaille. C'est tout ce que j'ai à dire.
Éric Dupond-Moretti balaie les critiques des magistrats qui sont reçus ce matin à Matignon et à l'Élysée. Question, le garde des Sceaux est-il devenu un problème pour Emmanuel Macron ? Et puis, l'incroyable histoire qu'on va vous raconter dans ce journal, le directeur du mémorial d'Auschwitz demande à prendre la place d'un garçon de 13 ans condamné à 10 ans de prison pour blasphème au Nigeria.
Juste après ce journal, faut-il interdire certaines publicités au nom de la transition écologique ? L'éclairage éco de Nicolas Barré, le débat Biden-Trump dans le regard international de Vincent Hervouet, l'édito sport de Virginie Fulpin avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Comme deux boxeurs sur un ring, Donald Trump, 74 ans, Joe Biden, 77. Ils se sont violemment affrontés lors du premier débat de la présidentielle américaine la nuit dernière. Si vous n'étiez pas réveillé à 3h du matin, petit florilège.
Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe?
Mais tu vas la fermer, dit Joe Biden. C'est tellement pas présidentiel, réplique de Donald Trump.
Yeah, there's nothing smart about you, Joe.
Il n'y a rien d'intelligent chez toi, Joe.
Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me, this.
Hey, let me just say,
Joe. No.
Autre extrait, c'est dur d'en placer une avec ce clown, dit Joe Biden. Excusez-moi, cette personne.
Bonjour Xavier Yvon.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Cleveland. Vous avez suivi ce débat pour Europe 1. Xavier, on l'a entendu, les noms d'oiseaux ont volé pendant 1h30. Qu'est-ce qu'on peut quand même retenir de ce premier duel ?
Bah, malheureusement, on est obligé de retenir d'abord ce spectacle pitoyable, un shit show à CNN. Alors, je vous traduis pas, mais c'est pas très beau comme mot. Difficile d'entendre un propos clair tellement il y a eu d'interruptions, notamment par Donald Trump en mode bulldozer. Joe Biden, de plus en plus agacé, a fini par traiter son adversaire de pire président qu'ait connu les États-Unis. Sur le fond, quand on arrivait à entendre les arguments, on a retrouvé les angles d'attaque habituels. Donald Trump qui tente de dépeindre Joe Biden comme la marionnette, c'est ce qu'il a dit, de la gauche radicale, allié des émeutiers, et le démocrate qui renvoie constamment au président son bilan contre le coronavirus. On retiendra aussi que Donald Trump a refusé de condamner les suprémacistes blancs, ça fait beaucoup d'émotions ici, et il a aussi refusé de jurer qu'il ne se déclarera pas vainqueur tant qu'on n'aura pas tous les résultats. À la sortie, c'était tellement odieux, tellement chaotique, que les commentateurs américains se demandent si les deux autres débats prévus auront bien lieu.
Xavier Yvon en direct de Cleveland pour Europe 1, et justement le prochain débat c'est le 15 octobre à Miami en Floride.
7h03 sur Europe 1, c'est décidément une rentrée pas comme les autres, dans les écoles mais aussi dans les universités qui concentrent à elles seules un tiers des foyers de contamination.
Oui, dans l'enseignement supérieur on compte 25 établissements fermés, totalement ou en partie. On va faire le point avec vous Virginie Riva, on peut dire que toutes les facs sont touchées à des degrés différents.
Oui, pour tous les patrons d'universités en France, ces cellules de crise chaque matin, organisation de l'emploi du temps, le tout orchestré par un référent Covid. Là où il n'y a pas de cluster, la règle, c'est la moitié des enseignements à distance et l'autre sur site. Mais à partir de 3 cas confirmés, on se pose la question de la fermeture partielle ou non. Exemple, à Dijon, les premières années de psycho et la 3e année de médecine ont fermé. À Angoulême, c'est toute la fac de sport. La réalité, c'est qu'il est plus simple de fermer des écoles de plus petite taille, comme cette école d'ingénieurs de Poitiers, par exemple, que des sites d'université. Autre paramètre, la situation locale à l'université d'Aix-Marseille en zone d'alerte maximale. Tous les cours d'amphi se font à distance, sauf pour les étudiants sans ordinateur. À Bordeaux-Montaigne, placé en zone d'alerte renforcée, les cours magistraux ne peuvent avoir lieu que si l'amphi ne dépasse pas les 30% de sa capacité d'accueil. Reste une interrogation, la sous-déclaration. Le président de l'université d'Aix-Marseille confie être lui-même surpris. 194 étudiants malades sur 80 000 depuis début septembre, c'est peu. Il lance aujourd'hui une application pour permettre permettre à ses étudiants de se déclarer plus facilement à distance.
Virginie Riva. Et ce matin dans le Figaro, le ministre de la Santé Jean-Michel Blanquer précise que seules 10 écoles sont fermées dans toute la France contre 19 il y a une semaine et 89 il y a 15 jours.
Pas de panique, la situation est sous contrôle. Voilà le message que veut faire passer l'APHHM, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. 168 patients Covid soignés, donc 46 en réanimation. Et pour l'instant, tous les malades peuvent être accueillis.
Oui, autre point positif, pas de transfert nécessaire vers d'autres régions. Très peu d'opérations déprogrammées. Comme Nathalie Chevance l'a constaté à l'hôpital de la Timone, le travail d'anticipation commence à porter ses fruits.
Dans le service du professeur Véli, anesthésiste réanimateur à la Timone, 90% des lits sont occupés et presque un malade sur deux est un patient Covid. Il faut donc jongler en permanence entre ces deux flux, car l'objectif c'est d'arriver à ne pas déprogrammer des opérations. Aujourd'hui, la PHM y arrive grâce notamment au recrutement.
Là, ce soir, on a deux lits de libre pour les non-Covid. Donc en urgence, on ouvre, on crée des lits de réanimation éphémère et trois lits de réanimation éphémère vont être créés. Si demain, la pression des Covid diminue, on reconvertit ces lits pour accueillir d'autres pathologies. Donc c'est un jonglage au quotidien. Et si on n'avait pas recruté, c'était absolument pas maîtrisé.
Une situation sous contrôle grâce aussi aux gestes barrières et aux efforts demandés aux cafetiers restaurateurs nécessaires pour que l'hôpital puisse continuer à accueillir tout le monde.
On a, grâce au port du masque obligatoire, à l'arrêt de la vie festive, un peu ralenti cette augmentation. C'est ce qui va nous permettre de continuer à opérer les gens qui doivent être opérés, prendre en charge les patients qui ont des pathologies chroniques. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait de confrontation tablier bleu et blouse blanche.
Message d'apaisement avec aussi la collaboration entre hôpitaux publics et privés qui permet pour l'instant de maîtriser la situation. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Les chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille ont identifié une molécule qui serait très efficace pour soigner le Covid. Les tests en laboratoire sont très encourageants. Il faut maintenant lancer les essais cliniques, mais il manque 5 millions d'euros. On va en parler dans le journal de 7h30. Et puis le Secours Populaire a enregistré une explosion des demandes d'aide alimentaire pendant le confinement. Près de la moitié des personnes accueillies étaient de nouveau venues. L'association dit n'avoir jamais vécu une telle situation depuis la Seconde Guerre mondiale.
Y a-t-il un problème Dupond-Moretti au sein du gouvernement ? Voilà plusieurs jours que la magistrature crie sa colère contre le garde des Sceaux.
Oui, et les deux plus hauts magistrats de France sont reçus tout à l'heure à l'Élysée par le conseiller justice d'Emmanuel Macron. La première présidente de la Cour de cassation sera reçue, elle, à Matignon par Jean Castex en personne. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous. On le sait, Éric Dupond-Moretti est un ministre atypique, mais certains proches d'Emmanuel Macron craignent que ce choix ne lui revienne en boomerang.
Et lorsqu'on pose cette question au sommet de l'État, la réponse fuse. Il est clivant, c'est vrai, mais c'est pour cela qu'il est là, pour bousculer le système, comme le dit un proche de Jean Castex. Éric Dupond-Moretti fait partie de ces quelques ministres haut-parleurs, inconnus pour leur sens du verbe, mais dans la majorité, c'est vrai, on commence à avoir des doutes. Ajouter une crise judiciaire à la crise sanitaire et économique, le gouvernement n'a pas besoin de ça. Certains mettent en avant que la hausse très importante du budget, près de 8 milliards inscrits au budget 2021, est inaudible, car le bras de fer entre la magistrature et Éric Dupond-Moretti fait plus de bruit. C'est un peu comme si le haut-parleur Dupond-Moretti avait monté le son trop fort.
Mais est-ce que le garde des Sceaux pourrait changer d'attitude ?
C'est pas au programme. Éric Dupond-Moretti a bien compris qu'il prendra toute sa place au moment de la campagne présidentielle. L'avocat, homme de théâtre, se prend au jeu de la politique et veut mettre sa faconde au service d'Emmanuel Macron. Mais avant ça, il devra quand même trouver les moyens de calmer le front avec des magistrats très mobilisés contre lui. L'avocat Dupond-Moretti doit donc trouver la bonne défense pour le garde des Sceaux qu'il est devenu.
Mickaël Darmon, l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, le Pakistanais accusé d'avoir grièvement blessé deux personnes, a été mis en examen hier pour tentative d'assassinat terroriste. Il est derrière les barreaux.
Ce matin, on a choisi sur Europe 1 de vous raconter une histoire étonnante. Étonnante et touchante, celle d'une mobilisation inédite pour sauver un jeune garçon nigérian condamné à 10 ans de prison pour blasphème.
Et c'est le directeur du musée et du mémorial d'Auschwitz qui a décidé de prendre fait et cause pour cet adolescent de 13 ans. Roman Hockey a pu le joindre en Pologne. Il ne pouvait pas rester indifférent à cette sentence.
C'est une histoire qui m'a beaucoup touché. Il y a des moments où on ne peut plus rester silencieux.
Et c'est directement au président du Nigeria que Piotr Tsevinski, le directeur du mémorial d'Auschwitz, a écrit. Une lettre au sujet d'Omar, un Nigérian de 13 ans qui aurait insulté Allah dans une conversation entre amis. Il a été condamné à 10 ans de prison pour blasphème. Piotr Tsevinski propose de purger une partie de cette peine à la place de l'adolescent. Une prise de position inédite.
Ça devient inhumain. On a tous eu 13 ans, on a tous fait des bêtises à cet âge-là. au lieu de construire en fait un adulte averti, en fait on le détruit pour toute sa vie pratiquement. C'est l'absurdité de ce verdict.
Depuis 7 mois, Omar, un élève fan de football, passe ses nuits en prison dans le nord du pays, une région où s'applique la charia, la loi islamique. La famille du jeune homme reste discrète. Son oncle a accepté de nous dire quelques mots.
Je suis soulagé, j'espère que ça permettra de libérer mon neveu. C'est un enfant. Au moins maintenant, il a des avocats pour le défendre et ça me donne de l'espoir.
Un début de mobilisation internationale qui a déjà été payant. Un nouveau procès est prévu le mois prochain.
Roman, ok. Puis un mot de la Bérézina des Français à Roland-Garros. Ils étaient 18 en lice, il n'en reste plus que 4 au deuxième tour. Simon et Gasquet éliminés. Du côté des dames, 4 également. Elles étaient 11 au départ. Pauline Parmentier va d'ailleurs mettre un terme à sa carrière à 34 ans. Journal de Roland-Garros à 8h30.
Merci Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Un tiers des clusters français sont en milieu éducatif. Faut-il vider les amphis, craindre pour la circulation du virus chez les étudiants? À 7h40 ce matin, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal, invité du tête-à-tête Europe Matin. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouette.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 7h13 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est le branle-bas de combat dans le monde de la publicité. De plus en plus de voix, en effet, s'élèvent pour l'interdire sur toute une liste de produits.
Oui, interdire. Beaucoup d'écologistes n'ont que ce mot à la bouche en ce moment. Interdire les voyages en avion, les voitures à essence, les prêts bancaires au secteur qui émettent trop de CO2, etc., etc. Alors derrière ces interdits en pagaille, il y a l'espoir de moins de croissance, voire la décroissance idéalisée par certains. L'espoir, parce qu'au bout du compte, moins de croissance, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre. Bref, il faut interdire pour protéger la planète, CQFD.
Et donc, dans la liste, interdire ce qui incite à consommer.
Oui, c'est-à-dire donc la publicité. Oui, c'est logique et c'est l'objet de la proposition de loi du député écologiste Mathieu Orphelin. Un texte surnommé Loi Evin Climat, la loi Evin, vous vous en souvenez, remonte à une trentaine d'années et visait à interdire déjà la pub sur le tabac et à limiter celle sur l'alcool. Mais là, avec ce texte inspiré de la Convention citoyenne sur le climat, on irait beaucoup plus loin puisqu'il s'agirait carrément d'interdire progressivement les campagnes pour les marques de voitures à essence ou diesel, ou encore pour les compagnies aériennes, et d'une manière générale d'interdire les pubs pour tous les produits les plus polluants. Ce serait tout simplement un séisme économique. Rien que l'automobile représente 3,5 milliards d'euros d'investissements publicitaires chaque année, et derrière, c'est toute l'économie déjà fragile des médias qui serait compromise.
La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, prépare aussi un texte de loi sur le sujet.
Oui, avec hélas la même philosophie de l'interdiction qui pose un double problème. D'abord, c'est infantilisant. Après tout, chacun est capable de juger de l'impact de sa consommation sur l'environnement. Les consommateurs sont adultes. Ils sont d'ailleurs de plus en plus attentifs au sujet. Exemple, les ventes de voitures diesel baissent depuis plusieurs années sans qu'on ait eu besoin d'interdire la pub. Et la publicité, accessoirement, contribue à orienter les choix vers des véhicules moins polluants. Et puis, deuxième problème, il n'y a eu aucune étude d'impact pour évaluer les conséquences économiques de telle mesure d'interdiction. Le secteur de la publicité, ce sont des dizaines de milliers d'emplois et des champions français de rang mondial comme Publicis ou Havas. La crise du Covid a mis à plat le secteur et plus largement celui des médias. Nul besoin d'un coup de massue supplémentaire qui en plus profiterait aux GAFA.
L'éclairage éco en plus. L'éclairage éco de Nicolas Barré. Merci Nicolas, 7h15. Vincent Hervouette est avec nous, le regard international. Bonjour Vincent.
Good morning.
Good morning Vincent. Ce matin, vous revenez, vous avez suivi cette nuit pour nous le premier face-à-face très attendu entre Donald Trump et Joe Biden.
Oui, alors bon, ce pugilat, ce n'était pas le match du siècle. D'ailleurs, c'est un tiers de match. Il y aura 2 autres rounds. Ils ne suffiront pas à désigner le vainqueur. La dernière fois, tout le monde le sait, Hillary Clinton l'avait emporté, terrassant par 3 fois ce balourd de Donald Trump. Mais c'est lui qui a été élu. Alors cette nuit, des dizaines de millions d'Américains étaient scotchés devant l'écran. Le match de catch fait sale comble. On attend l'audimat. Ce n'était pas le match du siècle, mais c'est l'apothéose de la politique spectacle. Tout un peuple subjugué qui guette le bégaiement de l'un, la provoque de l'autre, qui jauge la performance du showman et la résistance du vétéran du circuit, qui est récompensé quand l'un traite l'autre de clown, de menteur, de caniche, de marionnette, lui dit « tu vas la fermer, oui ?»
Deux bêtes de scène.
Ouais. Et l'important, c'est la mise en scène. Et c'est de la télé avant d'être de la politique. On notera l'hystérie des médias américains qui a contaminé toute la planète, comme si le sort du monde se jouait là, quand ce n'est pas carrément la bataille entre le bien et le mal. Chacun sommé de choisir son camp, de veiller cette nuit, comme si les Français votaient, comme si notre opinion avait une quelconque importance. La télé-irréalité, c'est stupéfiant. Donald Trump avait peut-être raison de réclamer un contrôle antidopage, on aurait dit un combat d'ivrogne. Et après l'épreuve, il serait normal qu'il pisse dans un tube à essai. On serait d'ailleurs curieux de connaître le résultat.
Donald Trump lui-même relaie ses rumeurs de dopage.
Et pour cause, le premier duel télévisé, c'est l'acte de naissance de la politique spectacle il y a 60 ans pile, avec le face-à-face où John Kennedy terrasse Richard Nixon, le beau face au truand, Kennedy est shooté comme une bête, gavé de cortisone pour supporter son mal de dos au point d'avoir des crises de psychose stéroïdienne. Nixon, lui, est trop normal, il souffrait d'une infection au genou. Les politiciens abusent de la chimie, il faut tenir. Hitler prenait 90 sortes de médicaments par jour. Churchill soulageait sa dépression à coups de somnifères. Les leaders sont des dealers. En France, c'est secret d'État. On admet que Georges Pompidou et François Mitterrand étaient soignés alors qu'ils étaient à l'agonie à l'Élysée. Mais leurs successeurs n'ont jamais eu à expliquer l'énergie surhumaine qu'ils ont pu manifester. Le show must go on.
On pourrait poser la question, la poser pour le sport à une époque. Vous seriez pour, vous, le dopage en politique, Vincent Hervouet ?
Mais le dopage en politique est permanent.
C'est un fait. Vincent Hervouet, le regard international, il est 7h18. Vous restez bien sur Europe 1 ce matin quand l'ancien capitaine des Bleus attaque le président de la Fédération, Noël Le Graët. Coup de sang de Patrice Evra, l'édito sport de Virginie Fulpin, dans une minute.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Y a-t-il du racisme en équipe de France de football ? Patrice Evra a mis les pieds dans le plat dans une vidéo hier. L'ancien joueur s'en prend à Noël Le Graët, le président de la Fédé, qui avait dit que le racisme n'existait pas dans le foot. Et il donne des exemples de ce qu'il a vécu lui-même avec les Bleus. Pour vous, Virginie, il faut écouter Patrice Evra. Mais son témoignage ne suffira pas.
Bah, pour une fois que Patrice Evra montre l'exemple, hein, parce que l'ancien capitaine des Bleus a souvent raconté n'importe quoi, hein, mais même une tête brûlée comme lui peut avoir des choses importantes à dire. On sait bien, depuis des décennies, il y a des gens dans ce pays qui ne supportent pas de voir des joueurs noirs en bleu. C'est une chose de le savoir, c'en est une autre de voir un ancien joueur raconter le genre de lettres racistes abjectes que le staff reçoit à Clairefontaine. Personne n'en a jamais parlé, c'est ça qui est fou. Et là, Patrice Evra le fait. Lui, il ne joue plus, donc il est plus libre de s'exprimer. On a suffisamment critiqué la sortie de Noël Le Graët sur le racisme qui n'existe pas dans le foot pour apprécier qu'un joueur le contredise. Et c'est pas un hasard si l'ancien capitaine en parle maintenant. Il y a quelques années, ça aurait été inaudible. Mais c'est comme le mouvement MeToo ou Black Lives Matter. Aujourd'hui, on ne se tait plus. On dénonce les discriminations. En tout cas, Patrice Evra le fait, et tant mieux.
Patrice Evra dénonce aussi une forme de racisme dans l'institution équipe de France.
Quand le président de la République il vient nous voir au château, hein, on sait que l'équipe de France n'appartient à aucun joueur, elle appartient au peuple français. Mais au moins, on a quand même des places attribuées, tu vois, quand on mange. Et à chaque fois que le président y venait, où il y avait normalement Mamadou Sakho ou Bakary Sagna, beaucoup de sombritude, ben, il fallait changer. Mais on savait, c'était les règles du jeu. On est en France, on n'est pas chez nous.
Alors le racisme au sein même de l'institution équipe de France, ce serait encore plus grave que les lettres de pseudo-supporters. Hein. Les joueurs noirs, pas trop près du président, on en tombe de notre chaise. Mais n'allons pas trop vite. François Hollande entre Hugo Lloris et Laurent Koscielny. Et alors ? Lloris, c'est le capitaine. Koscielny, c'est un proche d'Hollande. Il est corrézien. Ils ont participé à beaucoup de manifestations ensemble. Donc là, l'interprétation de Patrice Evra me semble un petit peu tendancieuse. On ne peut pas non plus voir du racisme partout. Et c'est là qu'on va avoir besoin de la version d'autres joueurs. On ne peut pas se fier qu'à lui. Mais au moins, à sa manière, maladroitement, Patrice Evra a placé le sujet sur la table. Il n'a jamais trouvé la taupe dans le vestiaire des Bleus en 2010, mais il débusque un lièvre 10 ans plus tard. C'est autrement plus important.
L'édito sport de Virginie Fulpin. Merci Virginie. 7h23 sur Europe 1, il est l'heure de retrouver Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Cela fait 65 ans jour pour jour que James Dean nous a quittés. En hommage à sa beauté éternelle due à son charisme et à sa disparition soudaine dans un accident de voiture, j'ai cherché une expression automobile. Il y avait appuyer sur le champignon, conduire comme un pied, partir sur les chapeaux de roue.
Donc je devine là que vous allez en choisir une toute autre d'expression. Laquelle, Stéphane ?
Oui, Mathieu, en voiture, Simone. Tout en sachant que dans son intégralité, l'expression est En voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne.
Une expression très classe, il faut le rappeler aujourd'hui. Mais alors, qui est cette mystérieuse Simone ?
Eh bien, contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas Simone de Beauvoir, mais Simone Louise de Pinet de Borde des Forests. Elle est l'une des premières femmes de France à avoir eu son permis de conduire. Elle le décroche en 1929, à 19 ans, et dès l'année suivante, elle participe à des courses automobiles, notamment avec sa maman en guise de copilote. On a longtemps cru que cette formule venait de Guy Lux. Oui, parce qu'il brocardait régulièrement l'aimable Simone Garnier en lui lançant « En voiture, Simone !» laissant croire lui-même qu'il était à l'origine de cette expression. Simone a eu une vie bien remplie. Elle a, durant sa carrière, battu 24 records du monde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a conduit un camion de la Croix-Rouge. Elle est la première femme à ouvrir une auto-école. Elle se marie à 63 ans et nous quitte en 2004 à 94 ans. Alors ce matin, j'avais envie de dire chapeau Simone.
Chapeau Simone, en voiture Simone, cette expression, on l'a tous en bouche évidemment. 16h, on vous retrouve tout à l'heure Stéphane. Historiquement vôtre, avec Mathieu Noël, bien évidemment, c'est sur Europe 1. Europe 1. 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et c'est plutôt calme en ce moment, nous avons un ciel couvert, soit par des brumes, des brouillards, soit par des nuages un peu plus élevés, mais pour l'instant c'est calme, et la pluie arrivera dans le courant de la journée, sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, sur la Champagne-Ardenne, la vallée de la Loire, ces pluies seront accompagnées de vents de 50 à 60 km/h, sur Paris, on va laisser un peu de soleil le matin, on va mettre un peu de nuages l'après-midi, et peut-être un peu de pluie le soir. Du Poitou-Charentes au Morvan et au Berry, ce sera un temps d'éclaircie, comme sur les Pays de la Loire, après les brouillards du matin. Et puis le beau temps quand même aujourd'hui, dans le sud-ouest, la Franche-Comté, l'Alsace, la région Rhône-Alpes et le bassin méditerranéen. En d'autres termes, profitons de cette journée. 16 à Brest, 18 à Lille, 19 à Rennes, à Belfort, 20 degrés à Caen et à Paris, 20 degrés à Bourges aussi. Et j'en termine avec 22 à Bordeaux et Lyon et 25 à Nîmes.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Hachène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Presque 7h30 sur Europe 1, un nouveau journal.
Comme on a maté la multiplication virale dans les poumons, on a aussi une diminution du risque de basculer vers la maladie grave.
Serait-ce enfin un début de solution contre le coronavirus ? L'Institut Pasteur de Lille a peut-être trouvé un médicament miracle. Dans ce journal, reportage à Paris avec les policiers chargés de faire respecter la fermeture des bars à 22h. Le débat entre Joe Biden et Donald Trump cette nuit à Cleveland, échange d'insultes et d'attaques personnelles et pas grand-chose sur le fond. Et puis Engie doit se prononcer aujourd'hui sur l'offre de rachat de Suez par Veolia.
En exclusivité sur Europe 1 ce matin, le bilan de la procédure 2020 de Parcoursup, mais aussi la gestion des clusters dans les universités. Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans le tête-à-tête Europe Matin après ce journal. Comment financer le budget généreux de la Sécurité sociale ? C'est l'édito politique de Nicolas Bétou. Nous retrouverons ensuite Nicolas Canteloup, qui coach à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk. Ce matin, Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les cas de Covid se multiplient en France. Près de 1200 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation, plus de 800 en une semaine. Et alors que les recherches se poursuivent pour élaborer un vaccin ou un traitement efficace, cette lueur d'espoir à l'Institut Pasteur de Lille, qui a peut-être trouvé la molécule miracle en laboratoire. En tout cas, Victor Dolande, les recherches sont déjà très prometteuses.
Oui, ils ont testé plus de 2000 molécules pour finir par trouver la perle rare. Une molécule qui ne produit pas ou peu d'effets secondaires. Pendant plusieurs mois, les chercheurs l'ont testée sur des tissus humains du poumon reconstitués en laboratoire. Les résultats sont très prometteurs. Il faut maintenant tester cette molécule dans un essai clinique que détaille Benoît Després, directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Lille.
Dès que les patients sont identifiés coronavirus positif, ils seraient traités, qu'ils soient symptomatiques ou non, pour faire baisser leur charge virale, éviter qu'ils ne soient très contagieux. Et deuxièmement, comme on a maté la multiplication virale dans les poumons, on a aussi une diminution du risque de basculer vers la maladie grave.
Mais pour lancer cet essai clinique, l'Institut Pasteur de Lille doit d'abord collecter 5 millions d'euros. Tout ça en gardant secret le nom de cette molécule. Les chercheurs veulent en effet éviter à tout prix une frénésie autour de ce médicament avant même que son efficacité soit prouvée.
Merci Victor Dolande.
Depuis lundi soir, on le sait, les bars doivent fermer à 22h dans les zones d'alerte renforcées. Cela concerne 11 villes françaises, dont Paris.
Et dans la capitale, 24h après l'entrée en vigueur de la mesure, des patrouilles de police ont été déployées pour vérifier que la consigne est bien respectée. Johanna Chabas a pu embarquer avec l'une de ses équipes.
Les instructions sont très claires, il n'y a pas de pédagogie. La circulation du virus est très active, donc non, c'est une fermeté totale.
Il est tout juste 22h et le commissaire Thierry Ballanger arpente déjà les rues avec ses 10 policiers à la recherche de la moindre infraction. Pour les guider, une liste des bars qui doivent fermer. Il constate les rideaux baissés, les terrasses rangées. Dans ce quartier d'ordinaire très animé, les rues sont désertes. Mais les policiers remarquent un pub où la lumière est toujours allumée.
On va fermer à 22h, monsieur.
Ah oui, on est fermé.
On est juste en train de monter tous les fûts et c'est...
Alors, mettez moins de lumière.
Ah, ok, ça marche.
Voilà. Fermez les portes à clé.
Fermez les portes à clé.
Celle-là, elle est fermée, celle-là... Non, on l'a pas fermée, ok.
Faites mieux la prochaine fois.
D'accord, ça marche.
Aucun client dans le bar, les policiers repartent. Pour Alexandre, le propriétaire, un simple rappel à l'ordre qu'il accepte sans contester.
Un petit rappel parce qu'on a oublié de fermer cette porte-là. Je respecte la loi, je respecte tout ce qu'on me dit. Donc on résiste, mais à un moment donné, on va tous craquer.
Les policiers finissent rapidement leur patrouille sans une seule verbalisation, car dans les trois rues contrôlées, aucune infraction n'a été constatée.
Reportage signé Johanna Chabas.
7h33 sur Europe 1. C'était l'événement de la nuit, évidemment, le débat entre Donald Trump et Joe Biden à Cleveland, dans l'Ohio.
Et pendant 1h30, ça a tourné au pugilat, des échanges chaotiques. Les deux candidats à la Maison-Blanche se sont insultés, attaqués, coupés la parole. Joe Biden a fustigé le bilan de Donald Trump, d'après lui, le pire président que l'Amérique ait jamais eu.
Under this president, we become weaker.
Sous ce président, nous sommes devenus plus faibles, plus malades, plus pauvres, plus divisés, plus violents. On est plus faible parce qu'il est le petit chien de Poutine.
He's Putin's puppy.
Et on reviendra sur ce débat houleux entre les deux candidats à la Maison-Blanche dans le journal de 8h avec François Geffrier. En France, l'assaillant qui avait gravement blessé deux personnes près des anciens locaux de Charlie Hebdo vendredi a été mis en examen hier. Il a été placé en détention provisoire. Devant les enquêteurs, il a avoué avoir menti sur son âge. Ce Pakistanais a 25 ans et non 18 comme il l'avait prétendu.
Une étape cruciale dans ce feuilleton que nous racontons sur Europe 1 entre Suez et Veolia. Engie réunit son conseil d'administration cet après-midi.
Et il doit dire aujourd'hui s'il accepte, oui ou non, la proposition de Veolia de racheter sa participation dans Suez. Mais au fait, Emmanuel Dutheil, pourquoi le géant de l'énergie souhaite vendre sa participation dans Suez ?
Eh bien, c'est assez simple. Engie veut se recentrer sur ses principaux métiers, les énergies renouvelables et les infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, on parle par exemple du stockage du gaz. Et pour se renforcer dans ces métiers, Engie a besoin de beaucoup d'argent. C'est pour cela que le groupe a décidé cet été de se séparer de tout ce qui n'est pas essentiel à ses yeux, comme par exemple la gestion des déchets et de l'eau. Engie, qui est née de la fusion entre Gaz de France et Suez Environnement, avait d'une certaine manière hérité de cette participation. Une participation qui peut rapporter gros aujourd'hui aux alentours de 4 milliards d'euros. À elle seule, cette vente devrait représenter la moitié des cessions d'actifs prévues par Engie. C'est dire si le groupe est aujourd'hui pressé de régler ce dossier. Il veut mettre ses activités en ordre de marche avant de nommer par ailleurs d'ici quelques jours un nouveau ou une nouvelle patronne. Ce sera à ce directeur général d'appliquer le recentrage du groupe.
Emmanuel Dutheil du service économie d'Europe 1. Le géant Disney touché de plein fouet par la crise sanitaire. 28 000 emplois vont être supprimés aux États-Unis, notamment dans les parcs d'attractions, l'événementiel ou encore les produits dérivés. Et puis un mot de tennis à Roland-Garros. C'est l'hécatombe côté français. Richard Gasquet, Gilles Simon, Hugo Humbert, Kristina Mladenovic, tous éliminés hier. À suivre aujourd'hui, le duel Alexander Zverev, Pierre Hugerbert, Benjamin Bonzi contre Yannick Sinner. Et puis Hugo Gaston affrontera le japonais Yoshihito Nishioka.
Merci beaucoup, Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Il est 7h35, je pensais à Roland Garros, où à 8h30, nous retrouvons Corinne Boulou, bien sûr, pour le journal de Roland. Vous savez, Europe 1, c'est la radio officielle de Roland Garros. 7h35.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h15, l'invité politique d'Europe Matin. Aujourd'hui, Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes et rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur le Covid. Il répondra tout à l'heure aux questions de Sonia Mabrouk. Mais tout de suite, comment gérer, comment contenir la multiplication des clusters dans les universités, les cours à distance, les amphis vidés? La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche nous répond dans un instant. Elle nous révélera aussi les chiffres 2020 de Parcoursup. Frédéric Vidal, le tête-à-tête Europe Matin, c'est dans une minute.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h38. Un tiers des foyers épidémiques en France se trouvent en milieu éducatif. De vives inquiétudes sur le déroulement de la rentrée étudiante, alors que certaines grandes écoles ont choisi le 100% numérique. Mon invité ce matin, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédéric Vidal.
Le tête-à-tête,
Mathieu Béliard.
Bonjour Frédéric Vidal.
Bonjour.
Avant de parler de la circulation du virus dans nos universités, Parcoursup, la procédure d'admission et d'orientation post-bac. Vous révélez aujourd'hui, vous nous révélez ce matin sur Europe 1, les bilans de la session 2020. Une année particulière, évidemment, le confinement, le Covid. Première information, les superlatifs, plus de formations, plus d'étudiants admis, plus de demandes. Vous avez l'air contente de votre rentrée sur ce point-là, ça a marché?
Oui, absolument, avec un accompagnement exceptionnel, une fois de plus, des commissions d'accès à l'enseignement supérieur qui réunissent les professeurs du secondaire, du supérieur, et puis les rectorats, les services d'orientation, alors que nous avons eu 30 000 bacheliers supplémentaires qui souhaitaient s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Nous avons, au moment de la fermeture de la procédure, 590 bacheliers que nous continuerons bien sûr à accompagner, puisque nous nous sommes engagés à un jeune, une solution.
Combien d'élèves sont restés sans proposition au total ?
591
élèves sans proposition de parcours sup.
C'est moins de 0,1%.
Ok, on fait quoi pour eux du coup ? C'est un bon résultat au regard de ce qu'on a pu dire ces dernières années.
On continue, bien sûr, on ne les laisse pas tomber, et on va leur trouver des solutions, on va leur proposer des choses. Et ils le savent d'ailleurs, hein, puisque nous les avons très régulièrement au téléphone, et on continue à affiner leurs projets, mais ils seront tous pris en charge.
Il y a une catégorie qui s'appelle les WICI. Qui sont-ils ?
Alors les WICI, ce sont des étudiants qui souhaitent rejoindre des formations qui ne correspondent pas forcément à ce qu'ils ont fait pendant leur cycle de lycée, et qui vont donc être plus particulièrement accompagnés, soit par des dédoublements de travaux dirigés, soit par du renforcement méthodologique, soit on va leur proposer de faire leur première année sur 18 mois ou sur 24 mois.
D'accord.
Pour justement les accompagner vers la réussite et leur donner confiance en eux.
Ils existaient déjà avant, hein, ces WICI, mais est-ce qu'on peut y voir un signe du confinement ? Est-ce que certains élèves sont arrivés à la fin de l'année sans avoir le niveau ?
Alors, les universités, pour certaines d'entre elles en tout cas, ont choisi de faire rentrer, si je puis dire, ces étudiants quelques semaines avant, justement pour regarder s'il y avait un accompagnement particulier à leur donner. Voilà, il y en a un peu plus évidemment que les années précédentes, mais l'accompagnement a été préparé durant ces trois dernières années, donc là les établissements sont prêts.
Avec la crise du coronavirus, le confinement, il y avait eu cette promesse de formation, de plus de formation dans les domaines sanitaires, le sanitaire et le social. Combien de places ont été créées dans les BTS ?
Alors, il y a des places qui ont été créées dans les BTS, c'est près de 6000 places. Des places qui ont été créées aussi dans les écoles de soins infirmiers, en lien avec les régions, puisque ce sont les régions qui pilotent ces écoles. Plusieurs milliers de places aussi. Nous avons essayé de répondre à la demande, c'est-à-dire que partout où il y avait une très forte demande, et ça a été le cas pour ces formations paramédicales, nous avons augmenté le nombre de places.
Frédéric Vidal, un tiers des clusters sont en milieu éducatif. Milieu éducatif, c'est l'école plus l'université, mais quand je lis Jean-Michel Blanquer dans Le Figaro ce matin, il vous renvoie un peu la balle. La contagiosité viendrait, selon lui, davantage de l'enseignement supérieur. Pour plusieurs raisons, sans entrer dans le détail, vous répondez, Frédéric Vidal, qu'on risque plus d'être contaminé dans un bar que dans un amphi, si on est masqué dans l'amphi. Ça semble cohérent, mais est-ce à dire qu'il n'y a pas de sujet contamination en université ?
Non, pas du tout. Il y a évidemment des contaminations observées dans les universités. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque on a un cas avéré dans une université, c'est facile de tester la promotion entière, et on voit qu'il y a aussi parmi les étudiants asymptomatiques des étudiants qui sont eux aussi positifs. Et ça permet aux établissements de gérer en fonction de ce qu'ils observent sur place. C'est très important quand on dit une université, souvent on parle d'une quinzaine ou d'une vingtaine de bâtiments qui peuvent être sur des sites différents. Donc c'est le président d'université, le directeur d'établissement, en lien avec l'ARS et le préfet, qui organise en fait soit le passage en tout distanciel, soit qui dédouble les promotions de manière à ce qu'il y ait et du distanciel et du présentiel.
Aujourd'hui, combien d'universités sont fermées ?
Alors il y a quelques dizaines de sites qui ont été fermés. C'est pas que des universités, c'est souvent des écoles qui ont un seul bâtiment en réalité, comme Sciences Po par exemple à Reims ou comme certaines écoles d'ingénieurs qui
oui,
n'ont
ça,
qu'un
ça semble plus simple d'isoler aussi de faire du 100% distanciel quand on est un Sciences Po, un HEC. Toutes ces questions-là, elles sont plus compliquées quand on est une grande université, évidemment.
Évidemment, mais dans une grande université, ce qu'il faut voir, c'est que les étudiants sont répartis par département de formation, et donc finalement,
et on fermerait le département,
voilà,
et pas forcément
une juxtaposition de petites structure.
Pourquoi est-ce qu'on ne teste pas directement sur les campus ?
Alors, ça se fait sur certains campus, hein, en lien avec les ARS. Il y a des
Barnums. Ça se fait beaucoup à l'étranger, Frédéric Vidal,
non,
en l'occurrence.
Il y a des Barnums qui ont été montés. Il y a des Barnums qui ont été montés au moment des chaînes d'inscription. Mais la réalité, c'est que il faudrait pouvoir tester tous les étudiants tous les jours pour que ça ait du sens. Et donc ça n'est pas le cas. Ce que nous faisons, c'est que nous sommes très attentifs à la définition d'un cluster. C'est une définition qui est très particulière. Vous pouvez avoir un établissement où vous avez 15 étudiants qui présentent des symptômes et vous vous rendez compte qu'ils sont dans 4 promotions différentes, qui ne se croisent jamais. Simplement, ce sont des amis.
Contaminés dans un bar, vous voulez dire ? Plus que dans l'université, pour le dire clairement.
En tout cas, ce que l'on observe, c'est qu'il y a, par exemple, il n'y a pas de corrélation entre l'apparition d'un cluster chez des étudiants et puis les personnels.
Est-ce que le protocole sanitaire est strictement respecté, appliqué ? Frédéric Vidal, dans les universités, je vous pose la question, je vous dis ma question d'après dans la foulée. Je vois Paul Maillot, qui est président de la FAGE, la Fédération des associations étudiantes, qui est cité dans le Figaro, qui parle de salles de TD pleines à craquer sans respect des gestes barrières, qui parle de 400 étudiants dans un amphi limité à 300. Qu'on ne me dise pas que ça n'a aucun impact, dit-il.
Alors, évidemment, je ne peux pas vous garantir qu'on est sur du 100%, mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les chefs d'établissement ont travaillé tout l'été avec leurs équipes pour préparer cette rentrée. Que nous avons mis à disposition des établissements des masques, pour le cas où les étudiants n'en auraient pas. Qu'il y a 4 scénarios qui ont été prévus en fonction de l'aggravation de la situation. Donc, l'ensemble des universités, l'ensemble des équipes pédagogiques ont travaillé tout l'été pour préparer cette rentrée parce que le présentiel était essentiel. Il fallait remettre du lien entre l'enseignant et ses étudiants.
Est-ce qu'il est question de confiner intégralement, de fermer intégralement les universités ? Ou est-ce que c'est complètement exclu ?
Alors, la situation, elle est très, très différente sur le territoire et elle est très différente dans les établissements. Donc, pour le moment, il n'est absolument pas envisagé de dire que l'on referme l'ensemble des universités. C'est pour ça, d'ailleurs, que de manière très pragmatique, en lien avec eux, la décision est prise par le chef d'établissement, avec l'ARS et avec le préfet et le recteur.
Pas de fermeture des universités ?
Pas de fermeture généralisée des universités, non. Une fois de plus, je crois que c'est très important d'arriver à garder du lien, d'arriver à garder du présentiel. On a vécu cette phase pendant le confinement. On a vu à quel point l'absence de vie sociale pouvait aussi être délétère pour les étudiants, y compris pour leur capacité d'apprendre.
Vous avez suivi le Premier ministre jeudi soir sur France 2, jeudi dernier ?
Oui.
Alors déjà, vous avez Stop Covid sur votre téléphone ?
Oui, bien sûr,
j'ai Stop Covid évidemment. Ma question portait plus sur les deux étudiantes qui l'ont interpellée. Qu'est-ce que vous dites ce matin, Frédéric Vidal, sur Europe 1, à des étudiants qui arriveraient en fin de cursus, qui démarrent une vie professionnelle et qui ne connaissent finalement, et ça c'est l'air du temps aujourd'hui, que leurs 9 mètres carrés, que leurs études en distanciel, un démarrage de vie professionnelle en distanciel. Quel avenir est-ce qu'on leur propose à ces jeunes-là ?
Bien, c'est tout l'objectif du plan jeune, hein. C'est 6,5 milliards d'euros qui ont été consacrés à justement encourager les entreprises à les embaucher, la possibilité de prolonger des stages, de décaler leurs stages, le soutien à l'apprentissage de manière à ce qu'ils aient une première expérience professionnelle.
Ma question portait sur le présentiel. Ces étudiants, ils disent, moi je veux rencontrer mes futurs collègues, je veux avancer dans une entreprise en prenant des pauses clopes avec mes chefs. Vous voyez ce que je veux dire, Frédéric
Vidal ?
Bien
sûr, bien sûr.
Quand on est dans son 9 mètres carrés, ça marche moins.
C'est le lien social et évidemment ce lien social est essentiel. Ce que je leur dis, c'est que si nous sommes tous responsables, et c'est le cas de l'immense majorité de nos concitoyens, eh bien nous en sortirons tous ensemble.
Merci Frédéric Vidal.
Merci à vous.
Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en direct ce matin dans le Tête-à-Tête Europe Matin, 7h47. Vous restez bien avec nous. Un projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui n'est pas financé. C'est l'édito politique de Nicolas Bétou dans une minute avant de retrouver Nicolas Canteloup sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Olivier Véran et Olivier Dussopt, les ministres de la Santé et des Comptes Publics, ont présenté hier le PLFSS.
Oui, une dénomination barbare pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, la survie de notre modèle social français.
Oui, PLFSS, c'est projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Exactement. Mais dans ces 5 lettres, il y en a une qui est en réalité un pur mensonge, le F de financement. Car le projet dévoilé hier hier par nos deux ministres, nous annonce le pire budget de la Sécu qu'on puisse imaginer. Des dizaines de milliards d'euros de déficit, 44 milliards cette année, une trentaine l'an prochain et au moins 20 pour chaque année suivante. C'est un puits sans fond.
C'est l'effet Covid, bien sûr.
Bien sûr, le gonflement des dépenses hospitalières, la revalorisation des rémunérations des personnels soignants, l'investissement dans les équipements de soins, l'effacement aussi d'une grande partie de la dette des hôpitaux. Tout ça était inévitable, sauf qu'on donne l'impression de pousser tous ces milliards devant nous dans une parfaite insouciance. Pire, on en rajoute.
On en rajoute, c'est-à-dire ?
Eh bien, non content d'empiler les dizaines de milliards de dépenses non financées, on en invente de nouvelles, on innove. Le projet de loi, le mal nommé PLFSS, nous promet la création d'une nouvelle couverture sociale liée à la dépendance, au grand âge et à l'autonomie. Des sujets immenses, bien sûr, qu'on devra affronter, mais pour lesquels on n'a pas à ce jour le premier euro. Or, il faudra, là encore, trouver chaque année une poignée de milliards, c'est incontournable. Mais tenez un autre exemple, le doublement du congé paternité. Tout le monde applaudit, c'est très dans l'air du temps, c'est un plus pour les familles, magnifique. Mais qui donc s'est préoccupé de ce que ça coûterait ? Oh, pas grand-chose, un demi-milliard par an. Mais à qui ? Qui paiera ? Et puis 500 millions par-ci, 500 millions par-là, lorsqu'on empile les milliards de droits non financés, ça ne devrait pas être anodin. Voilà, nous sommes avec notre fameux modèle social français dans l'inconscience collective et satisfaite.
Quelques poignées de milliards, Nicolas Béthou. Voilà. Comment on en sort ? Je veux dire, comment est-ce qu'on peut continuer à financer cette protection sociale ?
Eh bien, on ne peut plus. Aujourd'hui, il n'y a que deux moyens de faire, les taxes, les impôts, mais on est déjà le pays le plus matraqué au monde. Et puis la dette, mais là aussi, on frôle l'overdose. Voilà. On est en face d'un défi, politique comme jamais depuis l'après-guerre, lorsqu'a été créée la Sécu. Il faut trouver un autre mode de financement et réinventer cette protection sociale à la française. Pour l'instant, on ne s'occupe que d'épaissir la couverture et de la rapetasser, pas de savoir comment payer. On est comme Coyote Will, vous savez cet animal débile des dessins animés qui continue à courir alors qu'il a dépassé le bord de la falaise. Vous avez l'image, Mathieu ?
Parfaitement, on vous entend.
Ben voilà, on court, on dépense, mais il faudra bien retrouver un jour la terre ferme.
Merci Nicolas Béthou, directeur du journal L'Opinion. Et je dois dire, si je suis parfaitement honnête, que vous m'avez appris le mot raptacé. Verbe du premier groupe, je ne l'avais pas encore. On raptasse, réparer sommairement, grossièrement, un vêtement bien souvent ou quelques poignées de milliards en l'occurrence.
Comme
Nicolas Béthou, 7h53. Et tous les matins, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Et Nicolas Sarkozy est venu coacher Éric Ciotti.
Oui, bonjour à tous vos auditeurs. Bonjour Tavoud, merci de m'accueillir, Monsieur Béliard, et bravo à Monsieur Béthou, parce que franchement, il faut dire les choses, je trouve que vos chroniques sont très formidables. Voilà, on apprend des mots raptassés. Donc, moi, c'est des chroniques que je comprends, parce qu'il prend des exemples clairs, Coyote Will, moi ça me parle. Voilà. Écoutez, non, j'ai pas coaché Éric Ciotti, je suis retiré des affaires politiques, j'ai déjà dit répété, il est libre. Il peut dire absolument quoi qu'il veut, Eric. Ne souriez pas, j'ai aucune directive à lui directiver. Bon, ceci dit, s'il peut mettre un petit tacle discret à Christian Estrosi qui a appelé la droite à se ranger derrière Macron, sinon il n'y a pas de consigne. Bon, c'est vrai que ce serait pas mal de préciser que Barouin est mou, que Retailleau n'a pas le charisme pour le poste, puis aussi que Xavier Bertrand est trop isolé pour gagner, puis que finalement, Édouard Philippe, il est très bien au Havre. Voilà, donc du coup, mais qui reste pour sauver la droite ? Mais je vois pas, je laisse répondre M. Béthou s'il a la réponse.
C'est signé, un peu de suspense quand même, M. le Président. C'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Sonia Mabrouk reçoit Éric Ciotti à 8h15 sur Europe 1, il est 7h55. Europe 1. 7h58 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, je vais réparer un petit peu les prévisions que je donnais ce matin. Hein. Je ne vais pas les rapetasser.
Moquez-vous de moi.
Chez moi, attendez, je ne vous moque pas de vous. Chez moi, on dit pétasser.
Ah bon.
Chez moi, on dit. Oui, quand on répare, on dit on pétasse. Voilà, bon, ben là, je vais pétasser les prévisions que j'ai données tout à l'heure parce que la perturbation, elle avance quand même beaucoup moins vite que prévu. De sorte que nous aurons de la pluie, certes, mais un petit peu plus tard sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, comme sur la vallée de la Loire. Et nous aurons aussi le temps d'avoir quelques éclaircies sur le Poitou-Charentes, le Morvan, le Berry, et même du soleil sur la région Rhône-Alpes, l'Alsace, la Franche-Comté et l'Auvergne, ainsi que dans tout le sud-ouest et le bassin méditerranéen. Voilà, et en pétassant aussi ce qui va se passer sur Paris, nous aurons quand même un brin de soleil ce matin et peut-être de la pluie en fin de journée. Les températures entre 19 et 25 degrés, ça monte d'un degré. Un degré.
Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Il est presque 8h. Écoutez le monde changer. Bienvenue sur Europe 1.
I'm not going to answer the question.
Why
because,
would you answer that
because
question?
Because the question is, the question is, justice, will you shut up, man? Listen.
Une marionnette face à un clown. Voilà comment se sont présentés mutuellement le président des États-Unis et un ancien vice-président, tous deux candidats pour passer les 4 prochaines années à la Maison-Blanche. Récit d'un débat chaotique avec l'envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Cleveland. 2 clusters en une faculté et voilà les étudiants de l'université de Bourgogne renvoyés chez eux, cours à distance, mais on apprend moins bien, reconnaissent-ils. L'exécutif face au séparatisme, discours attendu vendredi, sauf énième report, et les informations d'Europe 1 sur ces situations concrètes que le gouvernement veut pointer du doigt. Dans ce journal, un accouchement au calme, reportage dans cette maison de naissance faiblement médicalisée, modèle qui va être dupliqué. Et puis dans le foot français aussi, le débat est au ras du gazon avec les mots fleuris de Patrice Evra, mais sur un sujet majeur, le racisme dans le sport.
Le discours attendu d'Emmanuel Macron sur le séparatisme, mais toujours aussi la gestion de l'épidémie de Covid à 8h15. Sonia Mabrouk reçoit Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
En fait, tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant est un mensonge. Tout le monde sait que c'est un menteur. Vous avez choisi le mauvais type au mauvais endroit, au mauvais moment.
La courtoisie du début n'a pas duré longtemps. À 3h15 du matin, heure de Paris, cette nuit, Joe Biden traite Donald Trump de menteur. La suite ne sera qu'une litanie d'interruptions et de noms d'oiseaux. Enfin presque, caniche, clown, marionnette, pire président que l'Amérique ait jamais eu.
Bonjour Xavier Yvon.
Bonjour.
Envoyé spécial d'Europe 1, en direct de l'Ohio. Le débat était censé suivre un fil conducteur, mais les spectateurs ont sans doute été complètement perdus.
Ah oui, je vous confirme que c'était une bouillie, hein. Il n'y a pas d'autre mot, vraiment très pénible à regarder. Tendu, chaotique, brouillon, le pire débat de l'histoire, une honte, voilà les commentaires abasourdis des médias américains. Alors on savait que Donald Trump allait être agressif, mais à ce point, il a harcelé Joe Biden avec des interruptions incessantes. L'ancien vice-président a bien tenté de garder son calme, d'abord avec des sourires moqueurs, des rires, puis des soupirs, et enfin il n'a pas pu s'empêcher de dire à Donald Trump de la fermée. D'ailleurs, c'est la phrase qui restera de ce débat. Elle est déjà imprimée sur des t-shirts mis en vente sur Internet. Et pour moi, il y a un moment saisissant qui symbolise ce débat. C'est le coup de gueule du modérateur, le journaliste de Fox News, Chris Wallace.
Messieurs, je déteste le débat voix, mais je pense que ce serait un service pour le pays si vous vous laissez chacun parler avec moins d'interruptions. Et je vous demande à vous, Monsieur le Président, de faire ça.
Mais lui aussi.
Mais franchement, vous avez fait plus d'interruptions que lui.
Il en fait beaucoup.
Moins que vous.
Vous l'entendez ? Le modérateur parle au président des États-Unis comme à un enfant et c'est arrivé plusieurs fois pendant le débat. Et évidemment, dans cette foire d'empoigne, bien sûr, on a très peu parlé des sujets de fond.
Alors Xavier, est-ce qu'on distingue ce matin quand même un vainqueur ?
Alors moi, je vais vous dire que Donald Trump n'a pas gagné et Joe Biden n'a pas perdu. Dans le camp démocrate, on a poussé un ouf de soulagement. L'ancien vice-président n'a pas craqué, il n'a pas fait de gaffe, même s'il est un peu descendu se battre dans la boue avec Donald Trump. Et le président, lui, était très fébrile. Il devait absolument créer un moment, marquer des points pour combler son écart dans les sondages. Bah, c'est raté. Les sondages des chaînes de télé qu'ils font juste après les débats donnent, eux, Joe Biden vainqueur. Ça vaut ce que ça vaut. Mais il y a un grand perdant qu'on peut désigner ce soir, cette nuit, sans se tromper. Ce sont les Américains.
Ce soir, cette nuit pour vous, Xavier Yvon, ici à 8h du matin en France. Merci Xavier, en direct de Cleveland, aux États-Unis pour Europe 1.
Le Covid-19 était l'un des enjeux de ce débat. Joe Biden a rappelé que son adversaire promettait l'extinction du virus avant la fête de Pâques. C'était au mois d'avril dernier. En France, on a recensé hier 59 morts, 8000 nouveaux cas de contamination et un taux de positivité des tests qui augmente encore 7,6%.
À Dijon, on a découvert 2 clusters dans 2 promotions distinctes de l'université de Bourgogne. Résultat, cours à distance pour 900 étudiants, Jean-Luc Boujon.
Dès la découverte de 7 cas positifs, en troisième année de médecine et en première année de psychologie, la direction de l'université décide de suspendre les cours en présentiel. 900 élèves, 2 promotions complètes, 600 psycho, 300 médecine sont immédiatement priés de rester chez eux, explique Alain Helleux, directeur général des services de l'université de Bourgogne.
Il faut réagir très vite et puis vraiment l'idée majeure, c'est de freiner l'expansion. À partir du moment où on a des étudiants qui sont positifs et qui ont été cas contact avec d'autres étudiants, donc avec un phénomène qui peut s'amplifier, mettre tout le monde à distance les uns des autres, c'est la seule mesure efficace pour freiner la contagion.
Résultat, depuis lundi, les étudiants suivent les cours de chez eux sur leur ordinateur. C'est le cas de Mélanie, étudiante en troisième année de médecine.
Ils ont remis en place ce qu'on avait pendant le confinement via la plateforme Teams. Tous les jours, donc on a nos cours à l'heure prévue. Mais c'est sûr qu'on apprend moins bien, beaucoup moins participatif, on va dire. Vu qu'on est chez nous, on est plus attiré par autre chose, peut-être moins de concentration. On a moins envie de suivre les cours, on a moins envie d'apprendre. C'est pas comme d'habitude. Ça m'inquiète un peu.
La fac assure que les cours et les TP seront rattrapés un peu plus tard dans l'année, ce qui ne sera en revanche pas possible pour les stages en hôpital des étudiants de médecine. Dijon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
8h04 sur Europe 1. Plusieurs fois repoussée, la stratégie contre les séparatismes doit être déroulée par Emmanuel Macron. Ce sera dans 2 jours, vendredi, au Mureau, en banlieue parisienne.
Et le gouvernement se prépare pour poser les termes du débat. Bonjour Jérémy Bodo.
Bonjour François, bonjour à tous.
Vous avez pu consulter des documents confidentiels où sont pointées des situations de séparatisme.
Oui, c'est un document d'une dizaine de pages où sont répertoriés des cas concrets de séparatisme. Ces exemples doivent permettre aux ministres et aux équipes de défendre, notamment dans les médias, la réalité du problème pointé par l'Élysée. Alors dans ces exemples, on trouve ici une école confessionnelle clandestine en Seine-Saint-Denis, là un lieu de culte interdit dans l'Hérault, ou encore des librairies islamistes dans le Nord. Pour chaque cas, les documents pointent la difficulté d'apporter une réponse adaptée. Faute de législation, les autorités ne sont intervenues qu'avec des moyens en fait de police administrative. Par exemple, en fermant l'école d'Aulnay-sous-Bois pour des infractions au code de la santé ou de la construction, des moyens évidemment limités face aux problèmes communautaristes.
Jean-Rémy, politiquement, quel est l'enjeu de donner ces exemples de séparatisme ?
Eh bien, du côté de la place Beauvau, on affirme qu'il est important d'illustrer la réalité du problème. Au ministère de l'Intérieur, beaucoup attendent le projet de loi contre les séparatismes pour être en capacité de lutter plus frontalement contre le phénomène. Pour une fois, on ne se cache pas, on parle bien de la lutte contre l'islam politique, confie un conseiller. À l'Élysée, on reconnaît que le sujet reste délicat. Un proche du président pointe l'enjeu d'éviter, je cite, les surenchères et les postures sur ce sujet. Vendredi, l'entourage d'Emmanuel Macron promet néanmoins, je cite, des réponses concrètes.
Information signée Jean-Rémy Bodo du service politique d'Europe 1 en direct. Merci Jean-Rémy. L'économie et ce nouveau soubresaut de la crise. Énorme plan social chez Disney qui va se séparer de 28 000 salariés dans le monde. Sa branche parc d'attractions, croisières et produits dérivés est très touchée par la crise.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Visite d'une maison de naissance, un lieu pour des accouchements plus en douceur. Dispositif qui va être étendu.
Et puis le foot, retour du débat sur le racisme alors que le président de la fédération disait ceci il y a quelques jours sur Europe 1.
On ne peut pas tout contrôler, mais ça ne peut pas être le football. Le football n'est pas raciste.
Une position répétée qui fait bondir Patrice Evra. On l'entendra.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h08 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
C'est une structure qui va être dupliquée. Les maisons de naissance, 8 sont en expérimentation depuis 5 ans. Le projet de budget pour la Sécu prévoit d'en créer 12 nouvelles.
Reportage de Victor Delande dans l'une de ces maisons plus faiblement médicalisées que les maternités classiques.
Bonjour, bienvenue au Calme. Le Calme, en fait, c'est l'acronyme de comme à la maison. Et ce qu'on essaye de faire dans les chambres de naissance, bah, ça, c'est qu'on se sente comme à la maison.
Visite avec Margot Dessieux, membre du Calme. Tous les parents peuvent aménager cette chambre à leur goût.
Ici, il y a évidemment une grande baignoire. Il y a un grand lit de place. On a des tapis de sol, si la maman se sent mieux pour le travail au sol.
Ce qui dénote aussi avec une autre chambre d'hôpital classique, c'est qu'il n'y a pas de table d'accouchement.
On laisse aux mères la liberté de choisir la position dans laquelle elles se sentent le mieux. Et ça n'est quasiment jamais allongé sur le dos.
La première fille de Camille est née à l'hôpital, ça ne s'est pas bien passé du tout. Pour son deuxième bébé, elle ne voulait pas revivre cette expérience.
On passe dans des hôpitaux où il y a énormément d'accouchements, il faut aller vite, enfin, c'est comme ça. C'est l'industrie des bébés, on est comme des voitures qu'il faut produire à la chaîne. J'entends dans les copines qui racontent leur accouchement, il y a comme une acceptation du fait que ce soit, ça se passe pas bien, mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir un enfant en bonne santé. Et en fait, on peut avoir un enfant en bonne santé et un bon accouchement.
Et c'est ce qu'elle a eu, un accouchement beaucoup plus respectueux, dit-elle. Dernier détail, Camille a même pu dormir avec son conjoint et son nouveau-né dans le plus grand calme, bien loin du bruit de fond permanent d'un hôpital.
Un reportage de Victor Dolan. amende. Jusqu'à 10 matchs de suspension, c'est ce que risquent le Marseillais Alvaro et le Parisien Neymar. La commission de discipline de la Ligue de football doit dire cet après-midi s'il y a eu insulte raciste d'Alvaro contre Neymar et réponse homophobe de Neymar contre Alvaro lors du PSG d'OM d'il y a deux semaines. Souvenez-vous, 14 cartons jaunes et 5 rouges. Dans ce contexte, voilà que Patrice Evra refait parler de lui. L'ancien capitaine des Bleus tape sur l'actuel président de la Fédé.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu.
Patrice Evra n'a pas digéré les propos de Noël Le Graët sur le racisme qui n'existerait pas dans le football. Il lui répond, et de quelle manière ?
Une vidéo très cash, 8 minutes sur Instagram, dans laquelle il dénonce certains dessous pas propres de ses 12 ans en équipe de France. D'abord, ces lettres d'insultes racistes qui arrivaient régulièrement, selon lui, à Clairefontaine, adressées aux Bleus et à Didier Deschamps.
Combien de lettres on reçoit ? Raciste, des lettres, hey, Didier, mais reprends tes singes et dégage en Afrique. Barre-toi avec tes singes, tes gorilles. Combien de lettres comme ça, mais on les cache parce qu'on veut pas que les joueurs aient... Mais moi, j'en ai vu certaines. On reçoit même des cartons remplis de caca.
Et puis, Patrice Evra va plus loin. Il parle de pratiques discriminatoires au sein même des Bleus lors de la venue d'un président de la République à Clairefontaine, sans doute François Hollande, en 2014. Evra affirme qu'on a écarté des joueurs noirs de certaines photos qui immortalisaient la visite pour privilégier Hugo Lloris et Laurent Koscielny.
Mais on savait, c'était les règles du jeu. On est en France, on n'est pas chez nous.
À l'époque, Hugo Lloris était capitaine et Laurent Koscielny, corrézien, un intime de François Hollande. Aucune réaction ce matin de la fédération ou de son président. Noël Le Graët, à qui Patrice Evra demande de quitter son poste.
Jérôme Lacroix en direct pour Europe 1. À Roland-Garros, au premier tour, pire résultat français depuis 1972. Voici tout de même la liste des Françaises et Français qui ne sont pas éliminés. Ferro, Herbert, Gaston, Père, Bonzi, Cornet, Garcia et Burel.
Merci beaucoup. Oui, c'est plus facile de faire la liste de ceux qui ne sont pas éliminés, malheureusement. Journal de Roland dans une vingtaine de minutes. Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h12.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Il est l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'heure de vérité face à la crise sanitaire. Va-t-on vers un reconfinement ? L'heure de faire la lumière sur les failles de l'attaque de Paris. Faut-il revoir l'accueil des mineurs isolés ? Invité Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes et rapporteur de la commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire, dans un instant.
Sonia, à tout de suite, il est 8h12. Bon réveil sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes et rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur le Covid.
Bienvenue à vous et bonjour Éric Ciotti.
Bonjour.
La situation sanitaire est grave. Nous appelons au rassemblement et à l'unité, a dit le Premier ministre. Qu'est-ce que vous répondez ce matin à cet appel ?
Je suis d'accord sur son constat. La situation est grave, en effet. Elle est inquiétante, elle est préoccupante. Je le mesure chaque jour en tant que rapporteur de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Tous les spécialistes que nous auditionnons depuis plusieurs semaines sonnent le signal d'alarme, d'autant que nous arrivons vers l'hiver où le risque est plus important. Donc il ne faut pas baisser la garde, bien au contraire. Et moi, je soutiens, je le dis très clairement, des dispositions plus protectrices. Je crois qu'en la matière, on n'en fera jamais assez. Il y a toujours cet équilibre, mais là où je me distingue un peu du discours gouvernemental, c'est que ce gouvernement tient des propos très largement contradictoires. Quand il y a quelques jours, le président de la République appelle les Français à aller massivement assister aux journées du patrimoine, j'y vois une forme de contradiction qui fait que nos compatriotes n'y comprennent plus rien. On ne comprend plus rien dans les mesures qui sont adoptées, les piscines ouvertes, les salles de sport fermées, des bars ouverts fermés, des restaurants, selon qu'on sert de la salade ou pas, c'est ouvert, ça devient totalement.
Oui. Votre soutien a quand même beaucoup de limites. Vous nous dites que vous ne faites pas partie des contestataires, mais vous remettez en cause des mesures.
Non, je ne remets pas en cause ces mesures. Bien au contraire. Je dis, on n'en frappe jamais assez pour protéger les Français. Pour moi, la priorité, c'est la sécurité sanitaire et ça doit primer sur toutes les autres considérations. Les chiffres sont préoccupants et j'entends ce discours en disant la maladie est moins grave. C'est faux. Le virus est le même. Il est aussi grave. Ses effets sont aussi graves que lors de la première vague. Donc ne baissons pas la garde. Ayons des mesures simples, fortes, parce qu'autrement il faudra reconfiner. Et moi je vois cette perspective.
C'est pas un mot tabou, c'est pas une réalité tabou. Vous dites autrement il faudra reconfiner.
Des pays l'ont fait. Je pense à Israël, je vois ce qui se passe au Canada aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, évitons cette perspective. Et pour cela, il faut de la responsabilité. Et je le dis, moi, je soutiens le gouvernement quand il fait preuve de fermeté, mais aussi de clarté. Et j'appelle à de la cohérence parce qu'il faut que les Français acceptent ces mesures, qui sont des mesures difficiles. Mais pour qu'ils les acceptent, il faut qu'elles soient simples, compréhensibles et justes.
Mais on note ce matin, Éric Ciotti, de votre part, et c'est important parce que vous êtes rapporteur de cette commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire, un discours et un appel à la responsabilité, alors qu'on a beaucoup entendu le mot de désobéissance ces quelques jours.
Cette désobéissance, elle est inquiétante, préoccupante, parce que derrière, il y a des menaces. Et je pense aux menaces pour nos aînés, parce que c'est une des leçons majeures qu'a tiré notre commission d'enquête. On a sacrifié dans cette crise beaucoup de nos aînés.
15 000 le mot est fort.
Oui. 15 000 personnes sont mortes venant des EHPAD, mais à peine 4 000 ont été hospitalisées. 11 000 sont morts en EHPAD sans avoir pu être hospitalisés. Donc c'est une des leçons majeures, nous le dirons.
Mais est-ce qu'on l'a retenu, Éric Ciotti ? Et maintenant, vous êtes rapporteur de cette commission, est-ce que le gouvernement est prêt face à ce rebond et est prêt surtout à ne pas, et le mot est terrible à dire, sacrifier nos aînés ?
En tout cas, rien de concret, de majeur n'a été fait pour augmenter nos capacités hospitalières, notamment en réanimation. Et rien n'a été fait, en tout cas de façon essentielle, pour les EHPAD. On voit même que le budget qui avait été annoncé sur les EHPAD, pour augmenter les effectifs, pour augmenter la médicalisation, la présence d'infirmières, notamment la nuit, de médecins, n'est pas au rendez-vous. Donc là-dessus, non, on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé au mois de mars et avril.
Après l'attaque à Paris, Éric Ciotti, le terroriste islamiste présumé, a révélé son âge véritable, 25 ans et non 18. Il n'était donc pas mineur isolé à son arrivée en France. Où se situe, selon vous, la faille dans le système ?
La faille, elle est dans la naïveté de notre pays. Dans un pays qui accepte aujourd'hui des flux migratoires de plus en plus importants. 450 000 personnes entrent légalement chaque année dans notre pays. Plusieurs dizaines de milliers...
Oui, légalement, ça c'est autre chose.
Je dis bien légalement, sans compter ceux qui arrivent illégalement. Ça veut dire que sur un quinquennat, c'est plus de 2 millions de personnes. Et c'est là qui est un sujet majeur. On nous parle de lutte contre les séparatismes, mais si on n'arrête pas ces flux migratoires qui nourrissent le communautarisme, eh bien on ne réglera pas le problème. Et à l'intérieur de ces flux, il y a ces pseudo-mineurs isolés. C'est devenu une filière migratoire qui détourne la loi. Il y a beaucoup de faux mineurs et on ne se donne pas les moyens de vérifier leur âge.
Mais il y en a beaucoup, Éric Ciotti, mais faut-il pour autant remettre en cause tout un dispositif d'accueil des mineurs isolés ? Parce que vous reconnaissez qu'il y a aussi des mineurs en difficulté aussi.
Bien sûr, mais pourquoi ces mineurs isolés ne sont pas repris par leur pays d'origine ? Je suis élu des Alpes-Maritimes, député des Alpes-Maritimes. C'est une des premières portes d'entrée en France venant d'Italie, des mineurs isolés. Les premières nationalités que l'on accueille, ce sont des Tunisiens, ce sont des mineurs venant, ou des pseudo-mineurs venant de Côte d'Ivoire. On a des relations fortes avec la Tunisie, avec la Côte d'Ivoire. Pourquoi la France prend la responsabilité d'accueillir ces mineurs?
Mais qu'auriez-vous fait concrètement au gouvernement?
C'est une action diplomatique très claire avec la Tunisie. On aide la Tunisie sur bien des domaines et c'est normal. Et on dit au gouvernement tunisien, occupez-vous de vos mineurs.
Mais quel moyen de pression? Ça ne marche pas apparemment, ni quand vous étiez au pouvoir, ni aujourd'hui.
Parce qu'on ne s'est pas donné la volonté de l'exprimer avec force. Il faut sortir des discours, il faut agir, il faut mettre en balance l'aide, les soutiens économiques, l'aide au développement. Il faut aussi que ces pays prennent en charge leurs ressortissants. Ce n'est pas à la France de s'occuper de mineurs isolés de certains pays. Connais des mineurs qui viennent d'Afghanistan, qui sont victimes des tortures de la guerre. C'est l'honneur de la France de les accueillir, mais on ne peut pas accueillir tout le monde
Monsieur
en France.
Ciotti, seule la loi est contraignante. Qu'est-ce que concrètement, ce matin, vous, parlementaires, députés, comptez faire sur ce sujet des mineurs isolés ?
On a une loi extraordinairement naïve, notamment sur le fait qu'on ne peut pas recourir à des moyens permettant d'évaluer l'âge. On sait très bien que la plupart sont des faux mineurs. Et on l'a vu malheureusement dans l'auteur de cette attaque
avec
terroriste.
Avec le test osseux, comme on l'appelle, qui n'a pas été réalisé.
Je l'ai demandé à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale, sous les gouvernements Hollande, sous les gouvernements Macron. Vous savez, il y a une forme de continuité. Il y a une forme de continuité malgré les discours ont changé, mais la politique en matière d'immigration, la politique en matière de sécurité, la politique en matière de lutte contre le terrorisme, il y a une vraie continuité entre Hollande et Macron.
Mais
c'est
vous
ça,
n'êtes pas
réalité.
Sans savoir, M. Ciotti, que les tests osseux qui devraient déterminer l'âge ne sont pas d'une grande fiabilité. La marge d'erreur est entre 2 et 4 ans. Malgré tout, vous pensez qu'il faudrait les rendre obligatoires ?
Ce n'est pas 4 ans, c'est 2 ans. Et puis, sur tous les tests, il y a des marges d'erreur sur tous les tests. On en a sur le Covid, donc allons quand même sur ces tests.
Il faut rendre obligatoire ces tests.
De façon systématique, bien sûr, c'est ce que je réclame.
Mais est-ce que vous allez au Parlement déposer un projet de loi sur l'accueil des mineurs isolés ? Est-ce qu'il faut aller plus loin selon vous ?
Bien sûr qu'il faut aller plus loin, j'y travaille, nous y travaillons avec des collègues, mais il faut une volonté du gouvernement. Voilà, en matière d'immigration, en matière de sécurité, il faut sortir des discours, il faut sortir des propos généraux.
Eh bien peut-être, je vais vous citer une volonté, qu'en pensez-vous ? Le ministre de l'Intérieur a adressé une circulaire, Éric Ciotti, au préfet, demandant que soient systématiquement exécutées les procédures d'éloignement d'étrangers représentant un danger. Elle est là, la volonté politique ?
C'est ce que je réclame depuis des années, par voie d'amendement, que ça soit systématique, un étranger condamné, quelqu'un qu'on accueille en France, qui ne respecte pas le pacte républicain, on lui donne l'asile, on l'accueille par un visa sur notre territoire, il viole les lois, il commet un acte de délinquance, il faut qu'il soit expulsé. Si c'est fait, je m'en réjouirai, nous verrons bien. Mais vous savez, il y a un autre sujet qui me préoccupe beaucoup, vous parliez de cette attaque terroriste terrifiante, qui a laissé d'ailleurs sans voix le président de la République.
Quelques jours, Emmanuel Macron a réagi, expliquant qu'un président n'était pas là pour commenter, mais pour agir.
En même temps, le président de la République, il donnait des leçons au gouvernement libanais, disant qu'il avait honte des responsables libanais, et il ne parlait pas de ce qui se passe sur notre territoire, d'un attentat qui, quelque part, est le fruit de cette fragmentation de notre société.
Quel signe voyez-vous, Éric Ciotti ?
J'y vois cette espèce de refus de voir la réalité depuis 4 ans.
Pourtant, le président l'a nommé la dernière fois.
Même dans le mot séparatisme, mot séparatisme, on refuse de dire que le problème, c'est l'islamisme. C'est quoi les séparatismes ? Ce sont les séparatismes qui nous attaquent, c'est l'islamisme qui nous attaque. Et c'est l'islamisme qu'il faut détruire, qu'il faut combattre avant qu'il nous détruise.
Gérald Darmanin, sur ce sujet, est clair.
Vous savez, oui, mais les mots ne suffisent plus en la matière. Moi, je regarde les chiffres. Les chiffres, par exemple, des sorties de prison. De façon globale, on a 13 000 détenus de moins dans notre pays, c'est les chiffres du garde des Sceaux, qu'au 1er mars dernier. Mais j'ai ici les chiffres de l'administration pénitentiaire. De 2018 à 2020, sur 3 ans, il y a eu 2260 libérations d'islamistes. 2260.
Là, vous parlez du sujet sensible, sortants.
De sortants de prison. C'est un sujet majeur.
Et donc,
c'est
Éric
celui qui nous menace.
Ils ont purgé leur peine, si je puis dire.
Il y a 226 personnes qui ont été condamnées pour terrorisme islamiste et il y a 2034 qui ont été radicalisées en prison.
Ciotti, soyons concrets.
Je suis très précis.
Oui. Le Conseil constitutionnel, vous le savez très bien, a censuré les mesures de sûreté qui étaient proposées.
On ne fait plus rien.
Non, mais que fait-on ?
Il y avait une toute petite loi à l'Assemblée nationale qui permettait à ces personnes d'avoir un bracelet électronique. Je l'ai votée. Elle a été votée d'ailleurs à la quasi-unanimité. Le Conseil constitutionnel, avec une extraordinaire naïveté qui montre
comment le contourner,
on n'a pas la capacité à se défendre contre nos ennemis.
Comment le contourner ?
Il faut une réforme de la Constitution. Moi, je la réclame depuis plusieurs années parce que cette menace, elle est là, elle est devant nous. On n'a pas de rétention de sûreté pour les islamistes, c'est-à-dire ceux qui sortent de prison et qu'on n'arrivera pas à changer parce qu'ils ils ont une idéologie mortifère. Eh bien, il faut protéger la société. Il faut un principe de précaution. Si le président de la République dit tout cela, s'il va vers la rétention de sûreté, s'il va vers la rétention administrative, s'il va contre le
port des signes religieux aussi dans certains lieux publics. Mm-hmm. Alors je le soutiendrai.
Et
mais
bien,
j'ai l'intuition que malheureusement, on n'en sera pas là.
On va voir. Ce sera vendredi, évidemment, ce discours. Et puis le projet de loi à venir, évidemment. Merci, Ricciotti, d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 à suivre l'info. Bien sûr, le journal de Roland Garros et notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. La musique nous fait du bien. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, le rappel de l'info avec Hélène Zélani.
Pas de fermeture généralisée des universités, engagement pris ce matin sur Europe 1 par Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, alors qu'un tiers des foyers de contamination détectés en France concernent le milieu éducatif. La Belgique vient de franchir le cap des 10 000 morts du Covid pour 11,5 millions d'habitants. C'est l'un des pays européens les plus touchés. Les demandes d'aide alimentaire ont explosé pendant le confinement et près de la moitié des demandeurs étaient de nouveaux venus. Amers constats ce matin du Secours Populaire, l'association estime aussi que le confinement a accentué les inégalités scolaires. 500 000 enfants auraient décroché. Les premiers examens n'ont pas permis de déterminer les causes de la mort de la jeune Victorine, 18 ans, retrouvée lundi à Villefontaine en Isère. L'autopsie est prévue ce matin. Et puis clown, menteur, pire président que l'Amérique ait jamais eu. Échange d'amabilité entre le démocrate Joe Biden et son adversaire Donald Trump lors du premier duel entre les candidats à la Maison Blanche. Ambiance tendue et impression de chaos alors qu'il reste encore deux débats avant la présidentielle du 3 novembre.
Merci Hélène Zélani, 8h32.
Passionné de tennis, c'est l'heure du journal de Roland-Garros avec Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
Bonjour Corinne Boulou.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le journal de Roland-Garros avec vous Corinne. Sombre journée hier pour le tennis masculin français. Aucun qualifié, ils ne seront que 4 tricolores au deuxième tour.
Oui, du jamais vu depuis 20 ans à Roland-Garros et sans aucun des nouveaux mousquetaires, une première depuis 2004. En soirée, Gilles Simon s'est incliné en 4-7 face au Canadien Chapovalov, top 10 mondial à seulement 21 ans. Richard Gasquet, tout juste remis d'une sciatique, a été dominé par le 10e mondial, l'Espagnol Bautista Agut. Et Grégoire Barrère n'a rien pu faire face au 20e mondial, le Bulgare Dimitrov. Auparavant, Hugo Humbert, Harold Mayo et Quentin Alice étaient passés à la trappe. Tout comme d'ailleurs, dans le tableau féminin, la numéro 1 française, Kristina Mladenovic. Seule consolation de cette journée, la qualification pour le deuxième tour de la jeune Fiona Ferro, 23 ans.
Ouais, c'est pas glorieux tout ça. Hein. L'émotion de la soirée pour la française, Pauline Parmentier.
Éliminée, mais saluée pour le dernier match de sa carrière par les applaudissements nourris de ses proches comme Amélie Mauresmo ou le capitaine de Fed Cup Julien Beneteau en tribune pour supporter une dernière fois Pauline Popo, comme tous la surnomment. Il était un peu plus de 23 heures sous les projecteurs du court 14 lorsque la nordiste s'est inclinée face à une jeune russe de 11 ans, sa cadette. Place au double maintenant avec Alizé Cornet avant de tirer définitivement un trait sur une carrière à 34 ans dont le poids d'orgue restera la victoire en Fed Cup il y a presque un an en Australie.
Au programme du début du deuxième tour, le retour de Raphaël Nadal sur le court.
Oui, le tenant du titre aura encore les honneurs du cours central face à l'Américain Mackenzie McDonald de 25 ans. Côté français, ils seront 5 à tenter de se hisser au troisième tour. Parmi eux, Benoît Paire qui revient du cauchemar du Covid. L'Avignonnais semble aborder du coup ses matchs avec moins de pression. L'analyse de notre consultant Cédric Pioline.
Il y a une sorte de relâchement et donc de se dire probablement que tout ce qui arrive à partir de maintenant... En quelque sorte, c'est du bonus. Donc voilà, après, c'est Roland-Garros, après, c'est un format 5-7. Il est tête de série, donc un petit peu protégé. Il joue des joueurs qui sont plus qu'abordables hein, pour son niveau. Donc, et comme il l'a déclaré, on ne sait jamais, un match, deux matchs, et puis la machine peut se relancer, même si, effectivement, il sera un peu plus court physiquement, un petit peu moins entraîné. Mais pourquoi pas ?
Benoît Paire sera opposé à l'Argentin Federico Coria, frère cadet de Guillermo, finaliste à Paris en 2004. Caroline Garcia aura pour adversaire la Biélorusse Sasnovic et le tout jeune papa Pierre Hugerbert aura lui la redoutable tâche d'affronter l'Allemand Zverev, récent finaliste à l'US Open.
Merci Corinne Boulou. Vous l'avez remarqué, on est masqué en studio désormais, mais Corinne Boulou, c'est le masque Roland Garros, s'il vous plaît. Rien que ça, très confortable, me disiez-vous hors antenne. Merci Corinne, il est 8h35.
C'était le journal de Roland Garros avec Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Bah les masques, j'ai des choses importantes à vous dire mes amis, surtout pour vendredi et samedi où un coup de vent semble se préparer. J'en parle dès maintenant parce que ça annonce assez sérieux. D'abord vendredi près de la Manche et puis samedi un coup de vent sur les côtes aquitaines et au pied des Pyrénées et se dirigeant vers le Massif central. Dimanche aussi, vent fort sur l'Atlantique et sur la Manche. Bref, ce sont des secteurs dont il va falloir vraiment se protéger. Alors aujourd'hui, c'est un temps, disons, automnal sur les régions de la moitié nord, printanier sur les régions du sud, France coupée en deux, et les meilleures chances de soleil pour le sud-ouest, l'Auvergne, la Franche-Comté, l'Alsace et Rhône-Alpes, comme le bassin méditerranéen. Sur Paris, ce sera un temps souvent couvert, et puis peut-être quelques rayons de soleil, mais aussi peut-être, et même certainement, un peu de pluie en fin de journée, et des températures entre 19 et 21 degrés.
Merci beaucoup Laurent. 8h36 sur Europe 1, dans un tout petit instant, les pouvoirs miraculeux de la musique. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Notre planète, Fanny Agostini. Et le scandale des vols sans destination, avant de retrouver Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de presse à 9h moins le quart. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h38 sur Europe 1, tous les matins, les réponses à vos questions de santé avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez souhaité ce matin nous parler du pouvoir de la musique sur notre cerveau. La musique aurait des vertus pour notre santé.
Et oui, et cela commence dans le ventre de la maman. Dès la 24e semaine de grossesse, un fœtus perçoit les sons. Certaines études suggèrent même que dès la 16e semaine, le futur bébé pourrait être sensible à la musique et ferait même des mouvements-réponses avec sa langue et sa bouche. Il serait en train de créer des connexions neuronales pour se préparer à l'acquisition du langage. Plus étonnant encore, les enfants à la maternelle qui bénéficient d'activités musicales, avec l'élaboration de chansons par exemple, ou d'autres petits jeux musicaux, ont de meilleures performances de lecture et d'écriture que les autres. Autrement dit, les interventions musicales ont un effet immédiat sur les acquisitions scolaires et le développement cognitif. Cerise sur le gâteau, il suffit de 2 heures par semaine pour avoir ces effets. Autre étude passionnante, des chercheurs ont voulu savoir comment la musique pouvait influencer l'acquisition du langage chez les enfants de plus de 6 ans. Ils ont constitué 3 groupes qui ont suivi un programme pendant 20 semaines. Un groupe a eu de l'activité physique pendant 20 semaines, 10 minutes par jour. Un autre groupe a été entraîné par un orthophoniste, 10 minutes tous les jours avec des exercices spécifiques. Et puis le dernier groupe a eu 10 minutes par jour d'activité musicale, chanter, exécuter des rythmes, taper du pied ou même danser. Eh bien, évidemment que le groupe sport n'a pas progressé, mais en revanche, le groupe orthophoniste et musique ont eu exactement les mêmes progrès et donc, ça a eu un impact positif sur l'acquisition du langage.
Jimmy, est-ce que les adultes peuvent aussi profiter de ce pouvoir extraordinaire, bénéficier de ce pouvoir extraordinaire de la musique ?
Exactement, et dans des domaines plutôt surprenants, la musique permet d'augmenter les performances sportives. L'écoute musicale pendant l'effort permet de dépasser ses limites, non seulement parce que la musique détourne l'attention de l'effort, mais aussi car elle neutralise la sensation de douleur. Les études montrent que courir ou faire du vélo en rythme avec de la musique diminue la consommation d'énergie car on est plus efficace dans ses mouvements et on retarde de 10% la sensation de fatigue lorsque l'effort devient plus intense. C'est pour cette raison qu'il est désormais interdit dans un marathon professionnel d'écouter de la musique. Elle pourrait aider aussi dans des pathologies lourdes, comme dans la maladie d'Alzheimer. Il existe ce qu'on appelle des bistrots Alzheimer. Le principe est simple, jouer une valse ou un tango qui était cher aux patients. Et chose incroyable, des couples aidants, patients se sont remis à danser le temps d'un instant. La musique redonne l'humanité que la maladie enlève. La découverte de la relativité m'est arrivée par intuition et la musique était la force motrice derrière cette intuition. Ma découverte est le résultat de la perception musicale. C'est Albert Einstein qui disait ça. Et pour plus de renseignements, je vous invite à lire le livre passionnant « La symphonie neuronale » écrite par le professeur Emmanuel Bigan et Barbara Tillman aux éditions Humaine Science.
Merci Jimmy Mohamed, on va terminer en musique. ...8h41 sur Europe 1. Notre planète. Tous les matins, nous retrouvons Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Fanny, prendre l'avion pour aller nulle part, c'est la dernière mode, mais c'est surtout la dernière aberration écologique.
Ah oui, vous avez peut-être entendu parler de cette nouvelle offre touristique complètement dingue, hein, n'est-ce pas ? Qui propose effectivement de décoller et d'atterrir au même endroit, en gros d'aller nulle part, en profitant d'un vol durant lequel, collé tout contre le hublot, le touriste va effectuer une boucle aérienne lui permettant de visiter une contrée vue du ciel. Bornéo, la grande barrière de corail, le site aborigène d'Uluru, mais de ne jamais s'y arrêter. Plusieurs compagnies aériennes, essentiellement asiatiques et australiennes, proposent des vols destination « nowhere ». une expérience qui se vit un petit peu comme une attraction, où le pilote va commenter le paysage et où les pop-corns et les crèmes glacées sont proposées tout au long du trajet.
Oui, bien sûr. Ces nouvelles formules seraient la conséquence de la pandémie Covid.
Bah complètement, le secteur aérien mis à mal pendant le confinement a trouvé le moyen de capter une frange aisée de la population en manque d'avions. Une aubaine économique pour les compagnies qui ont souffert de l'arrêt quasi total de leur activité. Et il semblerait que cette folie écologique ne soit pas prête de s'arrêter car ça marche. La compagnie aérienne par exemple Qantas a vendu en à peine 10 minutes les 130 billets allant de 500 à 2300 euros pour une simple petite virée dans les airs.
Est-ce que vous pointez ici, Fanny, c'est l'absence totale de sens?
Ah ben complètement. Je viens d'ailleurs de terminer un livre que je vous recommande très très éclairant sur ce sujet intitulé « Où est le sens ?» de Sébastien Boller, qui est docteur en neurosciences, et il explique que la nature est mal faite, enfin en tout cas en ce qui concerne l'humain. Ses dernières recherches sur le fonctionnement de notre cortex ont mis en évidence un petit élément situé entre les deux hémisphères de notre cerveau et que l'on appelle le cortex singulaire. Celui-ci agit en fait comme un bouclier de protection qui nous aiderait à ne pas penser à la crise environnementale, voire à la nier pour ne pas entrer dans un état de panique. Cette négation ou minimisation du changement climatique nous pousserait à surconsommer et à meubler nos existences par des distractions aussi éhontées que celle de prendre l'avion pour aller nulle part. Un mécanisme autodestructeur qui permet, certes, de se sentir au-dessus des menaces qui planent sur l'humanité, mais qui va accélérer le crash final en émettant toujours plus de CO2. Selon ce chercheur, il est urgent de stopper la machine à consommer qui est devenue l'humanité et de donner du sens à nos actes, faute de quoi la destination que nous prenons collectivement nous mènera irrémédiablement vers un atterrissage douloureux.
Merci Fanny Agostini, 8h43. La revue de presse de Nicolas Canteloup avec Julie, c'est dans quelques toutes petites secondes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio, Sonia Mabrouk et son invité.
Oui, bienvenue à vous et bonjour Eric Ciotti.
Bonjour Mama Pro.
Eric Ciotti, vous êtes rapporteur de la commission sur le Covid, c'est bien cela?
Oui, tout à fait Mama Pro, je suis le petit rapporteur. Hommage à Jacques Martin, voilà, ça fait sourire Madame Leclerc. Vous, Monsieur Béliard, vous n'étiez pas né.
Alors, Richard, la situation sanitaire est grave. Vous soutenez les mesures restrictives du gouvernement, Eric Ciotti?
Oui, vous me verrez toujours soutenir le gouvernement lorsqu'il prend des mesures restrictives. D'autant que ce n'est pas fini, parce qu'après l'automne, je vais vous donner un scoop, c'est l'hiver. L'hiver qui arrive. Mais on n'y comprend rien dans ces mesures. C'est là où je ne suis pas le gouvernement. Les piscines sont ouvertes, les salles de sport fermées, on incite à aller aux journées du patrimoine, les restaurants sont fermés, c'est un restaurant à salade, c'est ouvert, les salles de sport sont fermées. Oui, j'ai déjà dit, salle de sport fermée. Oui, mais vous savez, je pratique le bodybuilding. Et, oui, regardez, même vous pouvez toucher, maman. Vous, regardez, j'ai tout perdu en 4 jours. De plus, on a sacrifié nos aînés.
Sacrifier nos aînés, oulala, sacrifier nos aînés, le mot est fort.
Oui, on les a sacrifiés. On a perdu 15 000 personnes. Vous savez, ce sont nos électeurs. Hein. Les gens, quand ils sont âgés, votent souvent à droite. Demandez à Mme Leclerc. Vous verrez, Mme Mabrouk, dans 2 ans.
Alors, s'il vous plaît, Monsieur Ciotti, attention. Monsieur Ciotti, le mineur qui avait commis cet attentat n'avait pas 18 ans, il avait 25 ans. Faut-il pratiquer les tests osseux?
Oui, écoutez, à titre personnel, vous savez, c'est un test efficace. Moi, j'ai pratiqué le test osseux. J'avais 13 ans. On m'a dit qu'à 20 ans, je mesurais 1m96. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas très fiable. J'ai une marge d'erreur, certes, mais que de 44 cm, puisque je fais 1m52 en chaussettes. Oui, en chaussettes. Ça me fait gagner. J'aime bien les chaussettes d'hiver, même en été, ça me fait gagner 1,5 cm à 2 cm. Donc, je le dis, les tests osseux, pourquoi ne pas les utiliser? C'est l'appel que je lance.
Merci Eric Ciotti.
Merci à tous les deux.
S'il vous plaît, vous pouvez m'aider à descendre de ma chaise. Voilà, je vous rends votre coussin et l'annuaire.
Et l'annuaire. Merci beaucoup. Allez Mathieu, vous voulez bien prendre la suite? Hein? Allez.
Oui, on y va.
Oui, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Welcome to Europe 1. Welcome dans le 7-9. Oui, on est américain, vous l'avez compris.
Ouais,
on est américain. Ce matin, avec la l'info du jour, c'est le premier débat qui a eu lieu cette nuit aux États-Unis. Débat entre Donald Trump et Joe Biden, respectivement, 74 et 77 ans. Aux États-Unis, je crois qu'ils appellent ça un débat. Nous, on appelle ça une partie de bridge. Les deux candidats sont copieusement insultés. On a entendu des extraits ce matin sur Europe 1. Oui, on aurait dit la fin d'un match. PSG-OM en moins violent, bien sûr. Ils sont 150 ans à eux deux. À part un lancer de dentier, ça ne pouvait pas être vraiment spectaculaire, soyons honnêtes. Et puis l'autre info. L'autre info, ce sont les 28 000 suppressions de postes chez Disney. Malheureusement, aux États-Unis, il y a un Donald qui a encore du travail.
Ah, voilà. Non, bien.
Oui, elle était facile, mais elle était tentante.
Non, elle est super.
Ouais. Non, c'est vrai, regardez, j'ai ma liquette Disney rose et blanche en plus ce matin.
Ah, la liquette Disney. Allez, merci
à vous,
Mathieu.
Julie.
Oui. La presse parlait hier du problème des mineurs isolés. Vous savez, ces délinquants mineurs qui traînent dans les rues et que la police ne peut pas incarcérer. Bonjour François Bayrou.
Bonjour.
Alors vous êtes haut commissaire au plan, chargé de penser la France de dans 30 ans. J'imagine que la délinquance des mineurs est un sujet qui vous touche.
Madame Julie.
Bien.
Monsieur. Merci. Monsieur Béliard. Les autres, dont je ne connais pas tous les patronymes, tellement il y a de renouveau chez vous.
Oui, non, allez.
J'ai eu une grande idée pour la France.
Oui.
Et je suis en mesure de vous dire que dans 30 ans, il n'y aura plus de mineurs délinquants.
Ah, bah c'est génial. C'est quoi votre super idée alors?
Eh bien. On attend 30 ans. Car dans 30 ans,
oui.
Un mineur de 15 ans aura 45 ans. Il ne sera donc plus mineur. Délinquant peut-être, mais plus mineur.
Ah bah, il sera un délinquant de 45 ans, voilà.
Ouais, mais la moitié du problème est...
Sur ce problème des délinquants de 45 ans,
oui, bah oui.
Je n'y ai pas encore réfléchi.
Ah bah...
Mais si on a 30 ans de plus, ils auront 75. Donc ce seront des... personnes âgées, délinquantes, ce qui est beaucoup plus rare. Chaque chose en son temps.
Eh bien, on a bien avancé avec vous, monsieur Bayrou.
Voilà.
Merci d'être venu.
C'est bien de prendre le temps comme ça.
On en vient à ce scandale à la SNCF.
À
des
bientôt.
Contrôles... À la SNCF, des contrôleurs ont caché qu'ils étaient porteurs du coronavirus afin de ne pas perdre leur salaire en se mettant en arrêt maladie. On va en parler avec notre délégué syndical SNCF, monsieur Régis.
Oui, bonjour. Bonjour à tout le wagon. Alors, on fait moins les malins, hein ? On ravale les insultes. Gna 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 gna. La SNCF, c'est tous des feignasses, gna gna gna, la SNCF, on pense qu'à glander, faire la grève. Eh ben non, vous les médisants, là, quand on travaille à la SNCF, on bosse même quand on est malade. Voilà.
Mais enfin, mais
on
c'est
est
un
malade,
mais
on travaille.
Non, et dans le contexte actuel, c'est inconscient, pourquoi ils font ça?
Parce qu'on leur ordonne de pas travailler, du coup... Qu'est-ce qu'ils font? C'est des rebelles. Ils travaillent. Nous, la SNCF, on est des rebelles. Quand on nous dit qu'il faut travailler, on ne travaille pas. Quand on nous dit pas travailler, on travaille. Voilà. Et comme ça, on fait la grève là du pas travailler. Et la grève du pas de travail, c'est le travail.
Ouais, vous êtes un petit peu difficile à suivre hein, quand même.
Vous voulez que je m'en aille?
Bah oui.
Alors demandez-moi de rester.
Ah,
parce
voilà.
Que la grève du rester, c'est de partir.
Bon, ben, restez.
D'accord, je m'en vais.
Ouh là là, c'est compliqué votre truc là. Allez, Ségolène Royal va intervenir régulièrement sur LCI, l'ancienne candidate à la présidentielle. Reviendra régulièrement sur le plateau de l'émission En toute franchise. Le dimanche soir. Bonjour, Madame Royal.
Oui, bonjour. Bonjour, Madame Julie, Monsieur Momed, Monsieur Béliard, Monsieur Cobrol. Oui, écoutez, je commence une nouvelle carrière. Hein, chroniqueuse télé. Mm-hmm. Vous pourrez me retrouver sur LCI. Mm. LCI, vous êtes au cœur de l'info. Voilà, c'est notre slogan. Vous voyez, je suis corporate. Hein, on n'écoute pas le monde changer, nous. Hein, on n'est pas passif à écouter le monde changer. Hein, le cul vissé sur notre chaise à écouter bêtement. Hein. Non, nous, on met les gens au cœur de l'info. Hein, bande de ploucs.
Oh, mais dites, restez polis. Hein. Alors, pourquoi
avoir... Belles vos affiches, votre campagne publicitaire.
Bah, oui, très belles. Oui, bah, c'est beau, oui. Alors, pourquoi avoir accepté ce poste de chroniqueuse, Ségolène Royal?
Non, je poste.
Oui, non, mais allez, répondez à la question. Hein, pourquoi non, vous avez avoir accepté ce poste, chroniqueuse sur LCI?
Écoutez, je vois que les ponts entre les médias et la politique, soyons observateurs, les ponts entre les médias et la politique permettent de faire des allers-retours riches d'expériences. Vous voyez, Éric Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot, forcément, ça inspire. Ah, hein, oui. Écoutez, le parcours de Roselyne est intéressant. Hein, tous les Français se moquaient d'elle, elle est partie faire chroniqueuse sérieuse. Puis chroniqueuse rigolote, puis membre des grosses têtes à raconter des histoires belges. Et le bilan, quel est-il? Hein, retour au gouvernement avec une popularité. Parce qu'il y a beaucoup de P.
Une popularité
gonflée à bloc. Voilà. Ouais, du coup, moi, ça m'a inspiré. Ce parcours m'a inspiré. Très inspirant, je trouve.
C'est une stratégie pour vous, ça, alors?
Oui, c'est inspirant. Voilà, si nécessaire, j'ai la fibre pour faire partie de la bande à Laurent Ruquier. Hein. vous connaissez mon côté rigolard et déconneuse. Tenez, j'ai une bonne blague. Si vous me permettez, c'est pas tous les jours. Hein.
Allez-y.
Alors, c'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une table... Puis dans une chaise, puis dans un piano.
Oui, non, mais merci, on a compris.
Puis dans un flipper.
Oui, c'est bon, c'est Ségolène Royal, on a compris. Elle est irrésistible, cette blague.
Oui, je sais, on me l'a confirmé. Elle ne cherche pas des chroniqueurs, Anne Romanoff.
On va lui en parler.
Sur votre antenne, je fais une demi-saison de blagues, et puis après, hop, je bascule, je repars à la conquête de 2022. Donc, du coup, c'est gagnant-gagnant pour Europe 1 comme pour moi.
Gagnant-gagnant, il y avait longtemps, merci.
Écoutez, merci chance, Nicolas Canteloup et Julie, merci à vous deux, à demain, la revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Saluons les auteurs de Nicolas aussi, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilion et Arnaud Demange. Philippe Vandel nous a rejoint, Culture Média, la matinée continue de 9h à 11h. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu, content de vous retrouver malgré ce masque. Aujourd'hui, non pas une mais deux infos médias du jour. La première, c'est Paris Match qui a remporté non pas une mais deux récompenses. Et la deuxième, c'est un nouveau média qui s'appelle Urbania, assez... incroyable, francophone, mais pas français, québécois, canadien. Julia Vignali ensuite, l'animatrice, elle démarre la 9e saison du Meilleur Pâtissier, c'est ce soir sur M6. Et puis enfin, l'humoriste Kéron, comédien, et qui réalise son nouveau film, s'appelle Brutus contre César, sur Amazon Prime, et aussi son spectacle, On n'éteindra pas la lumière, et nous, on ne va pas couper le son.
Belle matinée à vous, non, ne coupez pas le son, montez le son même, parce que Culture Média va commencer après l'info, Sophie et Chêne. Moi, je vais vous retrouver demain matin. Je vous souhaite une très belle journée d'ici là, je serai là demain en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.